Chapitre 20. Après s'être dit 20 fois « il faut partir », ils se séparèrent enfin, et tandis qu'elle redescendait au village, la Vaupallière restait seule dans la sapinière, se demandait comment il devait se rendre à Rouen. Prendrait-il le train à la station d'Oissel, ou bien irait-il le prendre à celle de Grand Couronne en traversant la forêt? Ce fut à ce dernier parti qu'il s'arrêta. Sans doute c'était une course de 4 ou 5 kilomètres. Mais l'ennui de faire cette course pour quelqu'un qui n'aimait guère la marche serait plus que payé par l'alibi qu'elle lui offrirait si l'audacieuse absence d'Hortense l'obligeait à en fournir un. Où était-il? À Rouen, où il avait passé l'après-midi. Et personne, assurément, ne se trouverait à la gare de la place Saint-Sever pour constater qu'il n'y arrivait qu'à 8 heures du soir, puisque cette gare n'est pas celle qui dessert Oissel. Il aurait ainsi près d'une heure pour traverser la ville et aller prendre rue Verte le train qui le ramènerait dîner chez lui. En chemin, il achèterait le compte-gouttes. Ce fut rue du Grand-Pont qu'il entra pour faire cette acquisition, et il était en train d'écouter d'une oreille distraite le garçon qui lui montrait des compte-gouttes de différentes sortes, lorsque par une porte du fond, Turlure parut, accompagné du pharmacien avec qui il s'entretenait amicalement. « Comment, monsieur la Vaupallière, vous me faites une infidélité ?» s'écria Turlure. La Vaupallière resta interloquée. « S'il s'agissait de certains médicaments, continua Turlure avec un sourire malin, je comprendrais que vous vinssiez en faire l'acquisition à Rouen en cachette. Plus d'un de nos clients procède de cette façon. Mais un compte-gouttes ?» Et avec cela, demanda le garçon en enveloppant le compte-gouttes. Cette question sauva la situation pour la Vaupallière, qui d'ailleurs avait eu le temps de se remettre de son premier mouvement de surprise. « Des gouttes amères, » dit-il. « Nous souffrons donc de mauvaises digestions, » continua Turlure. « Manque d'appétit. Effet obligé de la cuisine d'hôtel. Pourtant, à la Renaissance, la nourriture est bonne. Pas de margarine, du beurre, je l'ai analysé. Peut-être le vin laisse-t-il à désirer. Vous feriez mieux de vous en tenir au cidre. En tout cas, ces gouttes vous feront du bien. » Les gouttes avaient été servies. « Retournez-vous à Oissel ?» demanda Turlure. « Par le train de 8h50. »« Alors nous allons voyager ensemble, enchantés de cette heureuse rencontre. » La Vaupallière était loin de penser à qualifier ainsi cette rencontre, mais enfin, grâce à l'idée des gouttes amères qui lui avaient traversé l'esprit, il espérait lui avoir enlevé ce qu'elle pouvait présenter de périlleux. Pourquoi n'aurait-il pas besoin de ces gouttes? Et pourquoi Turlure chercherait-il une autre explication que celle-là à l'achat du compte-gouttes? Dans la lettre qu'il écrivit le soir même, il ne parla donc pas de cet incident. À quoi bon l'inquiéter? Les choses écrites prennent tout de suite une importance qu'elles n'ont pas parlé. D'ailleurs, il avait mieux à dire et qu'il intéressait davantage son amour. C'était la première fois qu'il lui écrivait, et lorsqu'il se trouva en face de son papier, il fut surpris de ne savoir par où commencer, tant les idées se pressaient dans son cœur et dans sa tête, toutes, semblait-il au premier abord, d'égale importance. Elle n'était pas sa première maîtresse, et il s'en fallait de beaucoup, car dès sa sortie du collège, joli garçon comme il était, avec sa tête fine, sa barbe blonde frisée, ses yeux profonds, ses dents éblouissantes, sa démarche élégante et ferme, il s'était tout de suite trouvé classé dans la catégorie des hommes à femmes, et nombreuses avaient été celles qui s'étaient jetées à sa tête, sans qu'il eût rien à faire qu'à ouvrir les bras et à se laisser aimer. Mais aucune n'avait pris sur lui une influence comparable à celle qui le dominait présentement. Et cette influence avait cela d'étrange que tout d'abord, Madame Courteheuse ne lui avait que médiocrement plu. Drôle, oui, rien de plus. Pas assez mal pour vous mettre en fuite, pas assez bien pour vous engager dans une liaison durable. La voir une fois ou deux, par politesse plus que par goût, et s'en tenir là. Mais voilà qu'avec la possession, le goût était venu, et que la politesse s'était transformée en passion. Ce n'était plus l'avoir une fois qu'il voulait, c'était l'avoir toujours, entièrement à lui, comme il était à elle. Comment cette transformation s'était-elle opérée, il ne s'en rendait pas compte. Mais le certain, c'est que, depuis qu'elle était sa maîtresse, il l'avait aimée chaque jour davantage, plus profondément, plus passionnément, et qu'elle s'était si bien emparée de lui qu'il ne vivait plus que pour elle, ne pensait, ne voyait, ne sentait que par elle. C'était cela ou à peu près qu'il voulait écrire, car dans leurs entrevues écourtées, il arrivait toujours que, lorsqu'ils se séparaient, mille choses leur restaient à dire, le temps leur ayant manqué. Et puis, n'en est-il pas d'ailleurs pour lesquels l'écriture convient mieux que la parole et leur donne plus de solennité, plus de solidité? Aussi, bien qu'il ne fût guère épistolier de tempérament, était-il encore à sa table lorsque minuit sonna. En entendant les coups frappés, il resta stupéfait, et il ne le fut pas moins lorsqu'il numérota les pages écrites. Jamais tant n'avait passé plus vite, ne lui avait été plus agréable. Ah, comme il l'aimait, et qu'il était bizarre vraiment d'en être arrivé à un état de possession si complète que non seulement il ne pensait pas à s'en affranchir, lui qui, cependant, n'avait jamais été d'une nature constante, mais qu'il s'y plaisait, ne souhaitant rien de plus, ni en dehors, ni au-delà. Si sa lettre était longue, celle qu'il trouva le mardi matin dans le tiroir de son bureau l'était plus encore, et quelle Cortance, assurément, avait dû passer la plus grande partie de la journée à l'écrire. Un volume qu'il ne put lire que le soir devant son feu en chauffant le papier, et qui lui fit comprendre ce que, jusqu'à ce jour, il ne s'était guère expliqué, la nature même de son amour. Sans phrase, sans emphase, sans exagération, sans déclamation, mais le cœur bouillonnant, l'âme exaltée, l'esprit en feu, les sens vibrants, elle montrait toute nue la passion qui la dévorait depuis le jour où elle l'avait vue, tout nu aussi ses désirs, toute nue ses espérances. Et cela avec une sincérité si ardente, un tel élan de passion débordante, qu'il semblait que sa main eût couvert son papier de gerbes d'étincelles qui apparaissaient à la lecture comme les caractères incolores de l'écriture. Comment cet incendie ne l'eût-il pas gagné? Comment à ce foyer dévorant ne se fût-il pas enflammé? Cette correspondance continua chaque jour, plus écourtée chez l'amant qui ne savait pas redire ce qu'il avait déjà dit, aussi abondante, aussi débordante chez la maîtresse, qui, sur ces deux mots « je t'aime », trouvait des variations toujours nouvelles. Mais ce qu'elle ne disait point, et ce qu'il aurait cependant voulu savoir, c'était si les rendez-vous de la nuit reprendraient bientôt. Prodigue d'espérances vagues, elle était, au contraire, avare de paroles précises. « Compte sur moi, mon bien-aimé. Fie-toi à mon amour pour assurer notre bonheur. » étaient des phrases qui revenaient à chaque instant dans ses lettres, variées à l'infini, mais c'était tout. Et précisément parce qu'elle ne s'expliquait pas, il n'osait pas la questionner. Si elle ne parlait point, c'est qu'elle avait des raisons pour se taire. Les lui demander serait paraître douter d'elle. Et d'autre part, la situation était assez délicate pour ne pas l'aggraver encore par des imprudences. Assurément, par les ingénieuses combinaisons de double clé et de jus de citron, elle semblait avoir écarté d'eux tout danger. Mais enfin, une surprise était toujours possible. Si elle n'était pas habile, son mari pouvait tomber sur elle au moment où elle plaçait sa lettre dans le tiroir, ou même au moment où elle l'écrivait, ce qui, du même coup, lui faisait découvrir le moyen de la lire. Alors, que se passerait-il s'il trouvait l'explication, en paroles indéniables, de sa maladie ? Se faire prendre dans une complicité d'adultère est un accident insignifiant qui arrive chaque jour et dont la crainte n'a jamais arrêté personne. Mais dans une autre, c'est tout différent et la prudence s'impose. Ce n'était pas quand il se trouvait déjà que trop engagé dans ses affaires pharmaceutiques qui lui répugnait et dont il n'aurait jamais voulu, s'il eût conservé un peu de force de résistance, qu'il allait s'y mêler et s'y enfoncer davantage. Pour se renseigner, il n'avait donc qu'à étudier Courteheuse et à écouter ce que rapportait le petit clerc qui, fréquentant la cuisine, où il allait souvent préparer ou réchauffer son déjeuner, était mieux en situation que personne d'apprendre par Sélanie ce qui se passait dans la maison. Et ce qui se passait était caractéristique. Souvent, Léon racontait que le patron avait été malade et, en réponse aux questions de Boulnois ou de Fauchon, il répétait ce que Sélanie lui avait dit. Il est devenu très difficile pour la nourriture, trouvait tout mauvais, vomissait jusqu'à 5 ou 6 fois par nuit, ce qui était très fatigant pour madame, qui ne pouvait guère dormir, puisqu'il n'y avait qu'elle qui le soignait. Et cela n'était pas commode, car il se montrait en tout d'une humeur de chien enragé. Cette humeur, les clercs la connaissaient mieux que personne, étant les premiers à en recevoir les éclaboussures, et la Vaupallière plus que les autres, bousculée à chaque instant à propos de tout. Un jour qu'il travaillait avec Courteheuse, celui-ci s'était interrompu, le visage convulsé, se tordant sous le coup d'une crise de douleur aiguë. « Voulez-vous que nous remettions la suite à tantôt ? » avait-il demandé. « Pourquoi me proposez-vous cela ? » avait répondu Courteheuse d'un ton hargneux. « De quoi vous mêlez-vous ? » « Vous paraissez souffrant. Je voudrais vous voir à ma place. » La Vaupallière ne répondant pas, Courteheuse s'était un peu radoucie. « Vous n'avez jamais été malade, vous, je suis sûre. »« Je vous demande pardon, j'ai été souffrant en ces derniers temps. » « Tiens, tiens !» dit le notaire, avec une satisfaction qui ne se donna même pas la peine de dissimuler. « Est-ce que vous avez pris des médicaments ?» L'occasion était trop favorable pour qu'il ne la saisît pas. « Oui, des gouttes amères de baumé. »« Ça vous a fait du bien ?»« Aucun. Aussi, je les ai abandonnés, quoique M. Turlure m'ait dit que c'était un excellent remède. »« Les médecins et les pharmaciens sont des ânes. » Les remèdes tuent plus de gens qui n'en guérissent. Je devrais faire comme vous et renoncer aux miens. L'occasion encore était trop belle. Pourquoi ne vous y décidez-vous pas? Ah, voilà, je crois bien qu'en religion comme en médecine, ce sont les plus incrédules qui sont les plus gobeurs. Comme ils ne croient à rien précisément, ils s'imaginent que tout est possible. Les jours s'écoulèrent. Enfin, un soir, en chauffant les feuillets blancs qu'il avait pris le matin dans son bureau, il trouva au bas d'une lettre toute remplie d'une passion exaltée ce post-scriptum. « Je pense que tu sais qu'il y a un inventaire fixé à jeudi prochain. Arrange-toi pour envoyer Léon en course après le départ de Boulnois. Comme j'y enverrai moi-même Célanie, il faut que nous causions. Depuis combien de temps, avec quelle ardeur, quelle angoisse j'aspire à ce moment, tu ne l'imagineras jamais. »